11h30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1. Militante de la cause animale, elle se bat pour réintroduire le surimi dans son élément naturel.
Oui,
Christine Béroux.
Bonjour, bonjour à tous.
Sa voix est aussi suave qu'une pluie de grêle sur le pare-brise d'une voiture, le détonnant Mickaël qui regarde. Elle est interdite d'entrer au musée du Louvre car bien souvent les touristes la confondent avec la Joconde et la harcèlent pour avoir un selfie. L'inestimable Léa Lambeau.
Ah oui, c'est fatigant toutes ces photos. Bonjour.
Comme vous pouvez le constater en vidéo, c'est un ancien rugbyman qui a évolué chez les crevettes fragiles de Montargis, le roi du plaquage par SMS, Ben H.
Oui, bonjour à tous.
Et celle qui vieillit comme le bon vin, elle est ronde en bouche et a toujours une belle robe, notre millésime Anne Romanoff. Ouais.
Au sommaire de cette émission, Ben H nous donnera son nouveau secret pour être bien reposé. Ouais. À 11h30, nous recevons Sophie Dulac, productrice et fondatrice du Champs-Élysées Film Festival, dont la 8e édition s'ouvre aujourd'hui à Paris. Elle y sera accompagnée par l'humoriste et comédien Océan, membre du jury long métrage de ce festival. Mickaël Quiroga nous expliquera la différence entre cinéma indépendant et blockbuster. Et à partir de 11h50, la journaliste Raphaël Baquet sera notre invitée pour son livre Kaiser Karl sur Karl Lagerfeld qui vient de sortir aux éditions Albin Michel.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Ce matin, les lycéens planchent sur l'épreuve d'histoire-géographie avant celle de langue vivante demain. C'est vraiment une semaine de l'horreur. Non, je suis heureuse de ne plus avoir 18 ans pour ne pas vivre ça. Un conseil contre le stress des examens, Mickaël ?
Eh ben moi, contre le stress des examens, je préconise le redoublement. Ah non, mais voilà, faites-vous à l'idée que c'est foutu, vous verrez, il y a tout de suite moins de stress. Ça marche.
Oui, chers lycéens, écoutez, ce n'est pas grave d'échouer. Regardez, moi, j'ai pas eu mon bac et je m'en sors très... Non, bossez ! Bosser, il faut bosser. C'est essentiel, sinon vous allez finir comme...
Léna, tu as un des conseils contre le stress des examens ?
Ouais, moi j'aurais un petit conseil pour les jeunes d'expérience. Pour, voilà, le plus stressant, c'est vraiment pas l'oral du bac. Hein, c'est le premier oral au Pôle emploi. Ça, faut se préparer.
Ça, faut se préparer.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Le robot cuiseur Star d'une grande enseigne serait équipé d'un micro caché de haut-parleurs qui pourrait potentiellement être piratable. Je vois pas l'intérêt, parce que si c'est pour me dire que ce que je fais à manger est dégueulasse, j'ai déjà mon mec, hein, merci.
Scandale chez Lidl, la marque low-cost a mis en vente un autocuiseur à bas prix muni d'un micro, ce qui a provoqué un tollé chez les acquéreurs de l'appareil. Et je les comprends, un micro dans un autocuiseur, et puis quoi encore? Si on fait rien, la prochaine étape c'est les caméras sur les sextoys?
Grève des urgences, la ministre de la Santé Agnès Buzyn déclare ne plus vouloir de gens sur des brancards à l'hôpital. Oui, alors idéalement, si les malades pouvaient arriver en bonne santé à l'hôpital, merci, ce serait parfait.
Aurélien Taché, le député La République En Marche du Val d'Oise, a déclaré que petit, il se voyait aussi bien en Che Guevara qu'en Louis XIV. Alors Che Guevara ou Louis XIV, je sais pas, mais chaque samedi, il y a des gilets jaunes qui cherchent quelqu'un pour faire Louis XVI, s'il veut.
Ouverture des réservations pour l'exposition Léonard de Vinci au musée du Louvre. Alors si tu penses que Vinci c'est l'inventeur des parkings souterrains, cette expo n'est pas faite pour toi.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Léa Lando, Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Béroux et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Thalasso pour deux personnes en jouant un autre jeu, devinez qui je suis.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Ben H, Léa Lando, Christine Béroux, Mickaël Quiroga. Yes. Vous allez bien, Mickaël Quiroga ?
Je vais bien, Mickaël Quiroga. Et vous-même, Anne Romanoff ?
Bah oui,
non,
je
t'es
vais
tout
bien.
Malade.
Mais ouais, vous êtes pas habillé en été, là.
Non, parce que je suis un petit peu malade, vous entendez, je suis un peu pris, là.
Oui, mais comment ça se fait ?
Ben, j'ai pris froid.
Ce qui s'est mis nu tout le week-end.
Ah là, j'ai voulu jouer le bonhomme, regarde mon corps, et bam, j'ai pris froid.
À qui vous avez dit regarde mon corps ?
À moi, je parle qu'à moi.
Attendez là.
J'en suis là. Ouais.
Bon, là, les gens attendent le jeu. Comment s'appelle le jeu ?
Devinez qui je suis !
Europe 1, Anne Romanoff.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui n'ont pas eu le bac.
Hein, ça va, les pauvres.
Ça va réconforter.
Donc on va balancer, c'est bien.
Ça va réconforter nos amis bacheliers et puis les parents qui se font du souci.
Bah oui, mais après ils vont dire, oh, lui il a pas eu le bac, tu vois, c'est pas grave.
Cette semaine, tenter de gagner un séjour pour deux personnes, détente, bien-être, évasion à l'hôtel 4 étoiles, Thalasso Spa, les Flamants Roses à Cannes en Roussillon, proche de Perpignan. deux nuits en formule petit déjeuner avec deux demi-journées de cure de remise en forme par personne. Modelage sous infusion, bain multijet, chromothérapie, ouais, hydrogel, aquagym, avec accès à l'espace marin, hammam, sauna, salle de fitness. Plus d'infos sur www.hotel-flamand-rose.com. Mmh.
Et une nuit avec Ben H et son t-shirt.
Oui.
C'est quoi,
oui,
des, oui, des modelages sous infusion, c'est quoi?
Ça veut dire que t'as de l'eau qui te coule dessus.
En buvant une camomille.
Voilà, ça s'appelle une douche, mais c'est
plus. Non, mais c'est pas une douche, c'est que ça, c'est comme une petite.
C'est de la pluie.
Oui, mais une pluie fine, très agréable, chaude.
La bruine. Des petites caresses,
voilà,
d'eau,
une
en
bruine,
fait.
Et on te masse.
C'est comme si quelqu'un vous postillonnait dessus.
Mais
en fait,
non.
Compris.
On joue d'abord avec Inti.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde, bonjour public.
Salut. Alors Inti, ça veut dire soleil en quechua. C'est un dialecte colombien.
Mmh. Voilà.
Vous êtes assistante de direction dans une boîte de pub en banlieue parisienne. Vous habitez à Saint-Ouen.
Voilà. Mmh.
Et vous avez eu un défaut de prononciation jusqu'à l'âge de 14 ans.
Ouais.
C'était quoi, votre défaut?
Comme chat, en fait.
Ah oui?
Ah bon?
Ah oui, oui, vraiment.
Comme les petits, les ch'tis du Nord.
Cheveux. Non, non, j'avais un gros cheveu sur là, donc j'avais une perruque même, c'était bien.
Un poncho, du coup.
Et moi, c'est ça, un poncho.
Et on se moquait de vous?
Mais c'était horrible, vraiment.
Et comment c'est passé?
Bah, j'en ai eu assez à un moment. Avec 14 ans, j'en ai eu assez qu'on se moque de moi. Et il y a un prof qui m'avait dit... j'avais demandé à lire en classe, en fait, si vous voulez. Et j'avais levé le doigt pour lire. Et il m'a dit, tu liras quand tu iras chez l'orthophoniste.
Oh,
et ça m'avait vexé, mais vraiment, vraiment.
Bah ouais, il est
un
pas
pédagogue.
Très gentil.
Et ouais, hyper pédagogue, le mec. Et du coup, j'ai passé toute la nuit, avec mon petit frère, à m'entraîner à prononcer le S.
Ouais.
Et puis ça a marché. Et puis au début, ça demandait un effort vraiment considérable pour... quand je parlais, en fait, pour vraiment pas parler
et
comme ça.
Et finalement, vous êtes réussi à vous soigner.
Oui, exactement, sans orthophoniste. Et puis maintenant, c'est devenu naturel.
Et vous vous en sortez comment dans la phrase « Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ?»
Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ? Archi-sèches.
Bah mieux que toi, Léa.
Bravo.
Moi, j'avais un défaut.
Je me suis tellement entraînée dessus.
Moi, j'avais un défaut de prononciation quand j'étais petit aussi. Je répétais tout deux fois. C'était chiant.
Ça allait toujours.
Inti, vous êtes célibataire depuis le 1er mai?
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il a pas ramené le muguet?
Non, même pas. Non, mais ça n'allait déjà plus depuis un moment, en fait. Et puis, du coup, voilà.
Ça a duré combien de temps?
Ça a duré 8 mois.
Oui. Oh, oui.
Oh, bon, mais bien, vous étiez amoureuse?
Non.
Ouais,
pas trop. Donc c'est pas grave.
Bon.
Non, c'est pas très grave.
Ouais.
Et vous cherchez là?
Elle voudrait trouver un mec, si possible, écolo et vegan.
Ah, ouais. Très bien. Ah, bonne idée.
Écolo et vegan.
Mais ils sont rares. Hein.
À la limite, s'il est juste flexitarien, ça peut aller.
Bon, d'accord.
Je suis tellement hyper flexitarien.
Et t'es tellement hyper pas célibataire aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Ah bah oui.
Du réflexe.
Parce qu'il paraît que vous êtes très écolo, Inti. Vous avez pas de voiture, vous ramassez les déchets dans les parcs.
Ouais, tous les dimanches.
Ah
ouais. Les parcs, ouais.
Vous voulez pas venir plutôt à la maison, c'est un peu le bordel en ce moment.
Bon, en attendant, Inti, on joue. Vous ouais. Liste 1, liste 2.
Liste 1.
Liste 1, et vous jouez avec qui?
Avec Ben H.
Oh. Hey. Parce que vous avez dit que vous écoutez très souvent l'émission et que vous aimez Ben H, c'est ça?
Oui, exactement.
Ouais. Dommage, ouais. Hein, il n'est pas célibataire,
ça s'est
pas
joué
vegan.
À quelques mois, quoi. C'est tellement...
Allez. Des personnalités qui n'ont pas le bac. Attention, top chrono.
C'est un tennisman français qui fait des pubs pour Kinder.
Yael Monfils.
Non, c'est l'autre. Mais c'est
non,
pas... le plus grand couturier français qui a des marinières.
Jean-Paul Gaultier.
Ouais, une rappeuse française, ex-rappeuse qui aujourd'hui est dans la religion.
James.
Oui, le footballeur numéro 10 français 98.
Zidane.
Oui, l'acteur d'Intouchable noir.
Omar Sy.
Oui, le maire de Nice.
Le maire de. Je sais pas.
Celle qui a gagné la première Starac.
Jennifer.
Ouais, l'acteur qui joue dans Les Valseuses, le plus grand acteur français, on les connaît pour la bouffe aussi. Ouais. Celle qui a pas de shampoing et du coup elle donne des coups de couteau.
Dabila.
Ouais, et puis venez, on s'arrête là. L'acteur de.
Oh,
bravo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
bonnes réponses.
Allez, bravo.
Là, c'est un record.
Je vous souhaite un bon week-end avec les Flamants Roses.
Attends,
on n'est pas encore parti, mais c'est bien parti.
C'est
vachement bien. 8 bonnes, vous n'avez pas trouvé, cool. Vous n'avez pas trouvé Christian Estrosi, c'est tout. Sinon,
ouais, c'est
8
tout.
Bonnes réponses, bravo.
Franchement, bravo.
On joue maintenant avec Sylvain. Bonjour Sylvain.
Bonjour Anne, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Sylvain. Sylvain, bonjour. Vous avez 37 ans, vous êtes agent de sécurité, vous habitez à Chartres.
Oui, c'est ça.
C'est quoi, agent de sécurité ? Vous êtes vigile, en fait ?
Vigile dans un magasin de bricolage.
Mmh. D'accord, vous surveillez que les gens ne volent pas, en fait ?
Oui, c'est ça, il y a beaucoup de vols, donc on essaie de sécuriser au max. Hein.
Ouais, ouais. Surtout au rayon clou.
Oui, c'est ça, les gens mettent de leur poche.
Non, mais c'est les vrai, vis, parce qu'ils les vendent à l'unité, tu peux en mettre quelques-uns.
Oui, c'est en vrac, du coup, ouais. Ils s'en mettent plein les poches.
Ouais, ouais, je le sais, parce que moi, je les volais.
Quoi ?
Léa ? Bah attends, t'as besoin de 3 clous, tu vas pas prendre une pochette plastique qui est pas écolo pour mettre 3 clous dedans et les payer 30 centimes.
C'est quand même pas cher, vous avez des moyens d'acheter
c'est
des clous.
Cher,
oui. Non, c'est pas pour... C'est chiant, c'est tout.
Léa, enfin, c'est pas bien, c'est quand vous étiez petite que vous faisiez ça.
Oui. On va dire ça.
À 5 ans, elle avait besoin de clous déjà.
Ouais, Sylvain, vous chopez beaucoup de gens en train de voler ?
Eh ben, pas plus tard que ce week-end, enfin samedi, une perceuse.
Une perceuse ? Oui, c'est moins discret déjà.
Mais elle l'avait mis où la personne, la perceuse ?
Bah, déjà, il faisait super chaud. Enfin, dans le magasin, il faisait chaud. Le monsieur avait une grosse doudoune. Ouais. Donc, c'était assez cramé, quoi. Ah
ouais. Et il l'a mis sous la doudoune ?
Sous la doudoune, directement.
Et au moment de passer les portillons, ça a bipé ou ?
Non, il l'avait déballé de l'emballage, mais ça faisait quand même la grosse forme. Et puis, voilà, c'était. C'est facile à repérer, en fait, ce genre d'individu.
Du coup, il y a une palpation.
Oui, tout à fait. Bah, ouais, en fait, on lui demande d'ouvrir son manteau, et puis voilà.
Sylvain, vous jouez avec qui ?
Alors, qui est dispo pour jouer avec moi ?
Moi, je peux la faire, si vous voulez.
Voilà, je préfère.
Christine aussi ?
Oui, je suis.
Allez, bon, donc il faut être très, très au taquet, Sylvain.
OK.
Alors, bon. Ce sont donc des personnalités qui n'ont pas eu le bac.
OK.
Ou qui ont des problèmes avec le bac. Attention, top chrono.
Le chanteur de On s'était dit rendez-vous dans 10 ans.
Bruel.
Oui, celle qui chantait Joe le taxi.
Le paradis.
Oui, lui il chante, il est où le bonheur, il est où
Maë.
Oui, elle c'est aussi une chanteuse, elle a fait la famille Bélier.
Louane.
Oui, lui il présentait le grand journal, avant, à la bonne époque. Non, à la bonne époque, le grand journal.
Je passe.
Ah, lui il présentait Qui veut gagner des millions pendant des années.
Foucault.
Oui, lui c'est l'acteur de La piscine, ex de Romy Schneider, il est un peu vieux, il était à Cannes.
De long.
Oui, lui il a fait le Marrakech du rire.
Debouze.
Oui, lui, il a fait les petits mouchoirs, c'est le mari de Marion Cotillard. Oui.
Wow.
Allez donc, on a des champions aujourd'hui.
Il a dit Joe Paradis et pas Vanessa Paradis.
Oui, bonne réponse.
Il a dit Joe Paradis.
Et franchement, Sylvain, si vous aviez pas bugué sur Michel Denisot, c'était gagné quand même.
Ah, ouais, dommage.
1, 2, 3, 4, 5, 6, mais c'est très très bien. Alors, Inti, et je vais vous départager. Inti et Sylvain, vous êtes prêts tous les deux ?
Oui.
C'est un chanteur français. Allô maman Bobo, dans les poulaillers d'Acajou.
Voilà, Inti.
Bravo ma championne.
Inti, vous avez gagné un séjour pour 2 personnes à l'hôtel 4 étoiles Thalas au Spa, les Flamants Roses à Canet-en-Roussillon, proche de Perpignan. 2 nuits en formule petit déjeuner avec 2 demi-journées de cure de remise en forme par personne. Accès à l'espace marin, hammam, sauna, salle de fitness. Plus d'infos sur www.hotel-flamand-rose.com.
Génial. Merci mon petit Bénin, j'ai raison de vous aimer comme quoi. Je suis trop contente.
Sylvain ?
Oui.
Alors vraiment, vous avez fait 8 bonnes réponses, ça n'est jamais arrivé. Vous avez perdu sur le fil, donc là ce qu'on va faire, c'est que vous allez rejouer avec nous très rapidement avant la fin juin, vraiment.
C'est gentil, merci Anne.
Inti, profitez bien. Hein.
Ben merci, et Léa, la prochaine fois que je volerai des clous, je dirai que c'est parce que c'est écolo. Hein.
Exactement.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Christine Bérou, Mickaël qui regale à Lando et Ben H qui nous expliquera comment être bien reposé.
Oui. Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Ben H, Lando, Christine Bérou, Mickaël qui regarde. Il fait enfin beau et chaud sur toute la France. Est-ce que ça vous réjouit ? Comment vous le vivez ? Mickaël ?
Alors moi, dès qu'il fait beau, je vais chez mon frère dans le sud et je me laisse vivre. Vous voyez, logé, nourri à fond sur le barbecue. Je suis comme un pacha, je me fais servir.
Il vous a invité le week-end prochain ?
Non, mais maintenant il sait que je viens.
C'est où dans le sud?
Toulouse, du côté de Toulouse, il a Montesquieu-Lauragais. C'est joli comme tout, il y a un petit canal et tout. Et non, il n'a pas de caniche. C'est bon. Hein.
Léa?
Bah, Anne, moi qu'il fasse beau et chaud dans toute la France, je m'en fous. Là où je veux qu'il fasse beau et chaud, c'est dans ma culotte.
Oh, mais non, oh, mais enfin!
Non!
Des choses comme
c'est la fin de la saison. Là,
enchanté, je suis le soleil.
Franchement, Léa. Non, Léa.
Mais c'est l'été.
Non, Léa, on ne peut pas te laisser dire des. Non! On ne peut pas te laisser dire des choses comme ça. D'ailleurs, tu passeras à la maison ce soir qu'on en parle.
Ben H, vous avez l'air particulièrement reposé ce matin.
Oui. Et je suis aussi surpris que vous. Hein. D'habitude, vous me connaissez. Hein, quand tout se passe bien, le mardi matin, je tente de faire bonne figure. Mais la vérité, c'est que je suis encore déchiré du samedi soir. Christine, qui est à mes côtés quotidiennement, peut en témoigner. Hein. Normalement, je dégage une petite odeur de bière.
Au moins jusqu'à mercredi, hein, en général.
C'est ça. Du coup, dès le jeudi soir, bah, je repars sur un rythme week-end. J'aime bien faire la fête. En termes de descente, hein, j'ai mon petit niveau. Dans certains bars, on m'appelle même piste noire. Ça descend. Et au final, je me casse la gueule, piste noire. Mais alors que j'ai ma petite routine, hein, depuis maintenant près de 10 ans, hein, le week-end dernier, tout a basculé. Ça a commencé jeudi soir où j'ai maté un documentaire sur Hitler. Vendredi soir, j'ai fait un resto. Samedi soir, j'ai fait un ciné. Et dimanche, je me suis baladé au parc. Allô, je suis à deux doigts de crever dans un EHPAD. En 3 mois de couple, j'ai vieilli de 30 ans. Je suis à deux doigts de mettre des polos et d'aller acheter mon fromage à la coupe. Demandez-moi comment...
T'es
vieille, Léa.
Mais non,
demandez-moi comment je vais dans un mois et je vous répondrai avec mon épouse, nous cherchons un bien sur l'île de Ré. C'est dingue comment en peu de temps ma vie est devenue aussi chiante qu'un abonné à TéléZ. Je me suis baladé au parc. Je ne pensais pas dire cette phrase avant au moins mes 130 ans. À mon sens, faut avoir au moins tout vécu dans sa vie pour perdre son temps à marcher dans le but d'aller nulle part en particulier. Alors attention, hein, ce n'est pas ma copine qui m'empêche de m'amuser. Hein, c'est moi. Je ne m'affirme pas encore. J'ai peur qu'elle me juge. Si je débarque ivre mort au petit matin avec une haleine piquante à bas et le parfum de sa meilleure amie sur le col de ma chemise, ça va pas le faire. Hein. Le couple, c'est comme un sable mouvant. Au début, ça fait bain de boue, on se fait du bien, hein, mais très vite, on a les pieds et les poings liés et on respire plus. Du coup, bah, j'ai beaucoup réfléchi. Hein, ça m'arrive pas souvent de réfléchir, mais là, j'avais du temps à tuer pendant cette foutue balade. Et je me suis dit que tous les couples devraient avoir une carte joker le week-end, hein, un passe-droit qui permettrait à tous de se détendre sans contrainte. Bref, une sorte de week-end Christophe Castaner, où on aurait la possibilité de faire la carte Christophe Castaner. On pourrait faire n'importe quoi sans jamais en subir les conséquences.
Et on va au ciné ce soir?
Hop là, carte Castaner. Non, ce soir, je vais au bar avec des potes.
T'as encore flirté avec des filles hier soir?
Hop là, carte Castaner. Oui, ma chérie, mais rien de sérieux. C'est juste parce que j'étais complètement bourré.
Et je peux savoir pourquoi ta chemise a l'odeur de ma meilleure amie?
Bon, après, c'est à vous de fixer les limites. Castaner. Hein. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, le couple, bah, c'est comme le boulot. On s'investit bien toute la semaine, mais le week-end, c'est important de souffler.
Bravo!
Anne Romanoff sur Europe 1.
Mais moi, dimanche, je me suis baladée au parc, c'est grave.
Toute seule?
Non, avec une copine, c'est encore pire.
Oh là là.
Alors, vous savez que c'est le bac pour beaucoup de pauvres.
Dont ta fille.
De pauvres étudiants.
Alors, voici des choses qu'on entend pendant les épreuves du bac.
Vous là, rangez votre téléphone ou vous serez viré pour triche.
Mais je triche pas, madame. Je vérifie juste une citation philosophie.com si Spinoza, ça prend un T ou deux T.
Psst. Ouais, toi là, vas-y, montre-moi ce que t'as répondu à la deuxième question. Allez, sois sympa.
Non, débrouille-toi.
Dommage pour toi, vu ta tronche, t'as l'air encore plus sot et j'aurais peut-être pu t'aider à arrêter de l'être.
Alors, deuxième question. X plus B égale fonction de F divisé par Y.
Madame, je peux aller faire pipi, s'il vous plaît?
Tu as cru que j'étais née de la dernière pluie ou quoi?
Non, de la première, vu votre âge.
Ah non, mais c'est trop dégueulasse, quoi! C'est la troisième fois que je repasse mon bac et vous me faites le coup chaque année à changer les sujets.
Ouais, je suis ce qu'on appelle un surdoué, quoi. 22 ans et déjà en quatrième année.
Ouais, en quatrième année de quoi?
De bac, c'est la quatrième fois que je le passe.
Monsieur, la question c'est bien les causes de la Première Guerre mondiale? Non, parce que j'ai bien réfléchi et je vais prendre le 50-50. Ou l'avis du public et l'appel à un ami. Voilà, et je vais appeler Monsieur Boulard, mon prof d'histoire, c'est mon dernier mot.
Je pense que je vais au moins avoir la moyenne. On m'a conseillé de citer des philosophes grecs. J'ai cité Platon et Nikos Aliagas.
Moi, dans ma copie de philo, j'ai parlé de sodomie.
Mais t'es fou, et pourquoi t'as fait ça?
Pour que ma copie rentre dans les annales.
là, c'est dur, je comprends vraiment rien en maths, moi.
Mais c'est l'épreuve d'histoire géo.
Ben c'est ce que je dis, je comprends rien.
Europe.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Mickaël Kyrougalel, l'homme de Benage, Christine Murray,
tout de suite,
et nos invités, la productrice Sophie Dulac et le comédien Océan pour le Champs-Élysées Film Festival qui commence aujourd'hui à Paris.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Kyrougalel, Lando, Christine Mérou, Ben H. Et nos deux premiers invités qui vont nous parler cinéma. Sophie Dulac est productrice, distributrice et exploitante de cinéma. Elle vient nous présenter la 8e édition du Champs-Élysées Film Festival consacré au cinéma indépendant américain et français avec plus de 60 projections, rencontres et masterclass qui débutent aujourd'hui dans les salles de cinéma des Champs-Élysées. Et Océan, né Océane, comédien, humoriste, réalisateur, auteur et pour quelques jours membre du jury long métrage du Champs-Élysées Film Festival. Applaudissez Sophie Dulac et Océan. Bonjour à tous les deux. Alors, bonjour. Parlez-nous de ce festival, Sophie Dulac.
Alors, 8e édition, vous l'avez dit, effectivement, cinéma américain indépendant qu'on ne voit quasiment pas en France. Donc, c'est l'occasion justement de montrer au public français des petites pépites américaines et françaises maintenant.
Et du coup, ce festival remporte du succès auprès du public ?
Alors, écoutez, oui, parce que... oui, bah oui, on va dire oui. Non, c'est mieux.
Ça cartonne.
Non, écoutez, on attire quand même presque 25 000 personnes, c'est pas mal.
25 000 personnes chaque année, sur une semaine, c'est ça ?
Sur une semaine, des gens qui ne viennent plus au cinéma sur les Champs, puisque c'est totalement déserté. Malheureusement, les salles ne vont pas très bien, il en reste que 6. Bon. Donc 25 000 personnes, je suis assez contente.
Alors Océan, on vous a connu Océane. Ouais. Vous avez fait le spectacle La Lesbienne Invisible, qui a bien marché, Chaton Violent. Ouais. Et là, vous avez fait une démarche pour changer de sexe. Donc ouais, ça y est, maintenant.
Ça s'entend, ça se voit.
Et vous avez fait un documentaire là-dessus.
Absolument, ouais, qui s'appelle Océan et qui est sur France Télé Slash, qui est en libre accès, sous forme d'épisodes d'environ 10 minutes, de 10 épisodes de 10 minutes, où j'ai suivi en fait la première année de ma transition. Et en fait, on sort aussi ce film au cinéma. C'est un peu une breaking news parce que voilà, ça se passe très bien. Et donc, on va faire l'avant-première justement au Champs-Élysées Film Festival lundi 24 à 20h30. Et je serai là pour rencontrer le public. Du coup, les gens qui ne l'ont pas vu peuvent venir le découvrir ou ceux qui l'ont vu peuvent venir juste pour discuter avec moi.
Il va sortir en salle quand alors ?
En octobre.
En octobre, d'accord. Voilà.
Donc c'est formidable, hein, parce que c'était plein d'humour, c'est émouvant.
C'est vous qui allez le distribuer, Sophie Dulac ?
Non, c'est pas moi, parce qu'il y a déjà un distributeur, mais nous, on fait une séance spéciale sur le festival, et franchement, moi, je l'ai vu, bien sûr, et c'est drôle, c'est émouvant, c'est impressionnant, enfin, c'est... Voilà.
C'est important pour vous de raconter ce passage-là ?
Oui, je pense que c'est important de donner de la visibilité aux personnes trans, parce que c'est encore des questions très... Voilà, les gens connaissent pas trop la transidentité, moi, je vois, on me pose toujours les mêmes questions qui, pour moi, semblent que devraient être acquises, et en fait, elles ne le sont pas, donc c'est bien de parler de ça.
Principal.
Il y en a de toutes sortes. Les gens ne savent pas ce que c'est forcément, comment on prend des hormones, c'est quoi la transidentité, est-ce qu'il y a un début, une fin. Pour moi, il n'y a pas de début et de fin. Je suis trans, je serai trans toute ma vie. Ouais. Après, chaque personne trans se positionne différemment.
C'est un traitement à vie, c'est peut-être ça la question de s'il y a un début, une fin.
Non, je pense que c'est plutôt la confusion entre le fait d'avoir ce qu'on appelle le cis-passing, c'est-à-dire quand on passe pour une personne cis. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, les gens me disent monsieur.
C'est quoi cis?
Cis, c'est le contraire de trans. C'est-à-dire que, on est soit transgenre, soit cisgenre. C'est-à-dire que si vous êtes en adéquation avec le genre qui vous a été assigné, ce qui est apparemment votre cas, êtes cisgenre.
C'est peut-être ça le problème.
Ou alors on peut en parler, Anne, si vous voulez. On peut faire une réunion tous les deux.
Je galérerai moins. Mais
en tout cas, voilà, donc c'est soit cisgenre, soit transgenre. Et donc quand on a un cis-passing, c'est-à-dire qu'on passe pour une personne cis, alors les gens pensent que ça y est, c'est fini. Bon, moi je le vois pas trop comme ça parce que je vis avec tout mon passé, mon éducation de femme et j'ai des réflexes atavique de femme. Donc,
c'est-à-dire quoi par exemple ?
Je sais pas, d'être complexé, de serrer les gens dans le métro, de bien me comporter avec les femmes, par exemple. Ah. C'est un truc qu'on m'a appris et que les hommes cisgenres font pas toujours.
Mais du coup, vous avez plus de succès avec les femmes ou pas ?
Ça va. je me comporte mieux que beaucoup d'hommes, donc que c'est apparemment c'est.
Vous voulez pas prendre Benach en stage ?
Il suffit juste d'être poli et de pas agresser sexuellement les filles quand elles sont bourrées. Et en fait, déjà, c'est énorme. Les hommes ont beaucoup à apprendre
mais
de nous,
je crois. Mais je trouve que vous avez l'air mieux dans votre peau.
Ah oui, bah oui, oui, je suis peut-être mieux dans ma peau, c'est possible.
Oui, non, ouais. Je trouve. Dans ce documentaire, vous filmez votre maman qui a accepté, et elle refuse, elle, au départ.
Ouais, bah, je l'ai filmé pour ça.
Et en même temps, elle est bienveillante.
Voilà, c'est ça, parce qu'elle est à la fois très, très bienveillante et on sent que, voilà, elle est là, quoi, pour moi, elle ne m'abandonne pas, entre guillemets. Et en même temps, elle dit beaucoup de conneries. Et vraiment, elle comprend rien et elle connaît pas. Et elle est assez agressive, assez dure avec moi. Mais j'ai voulu la filmer parce que je me suis dit que pour beaucoup de gens, justement, qui n'y connaissent rien, elle serait une porte d'entrée, justement, et c'est à elle qu'ils allaient s'identifier.
Oui, maintenant que le film va sortir en salle, elle n'a pas peur, enfin, je veux dire, je sais pas.
Non, mais elle assume ce qu'elle a fait, je crois. Enfin, je lui ai pas encore dit qu'il sortait en salle, remarque.
Elle va dire.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec nos deux invités, Océan et Sophie Dulac. Vous nous parlez de la 8e édition du Champs-Élysées Film Festival, consacré au cinéma indépendant américain et français, qui démarre aujourd'hui jusqu'au 25 juin sur les Champs-Élysées à Paris. Ne bougez pas, en revue.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Quiroga, Léa Londo, Christine Mérou, Ben H et nos deux invités, bonjour. Sophie Dulac, qui vient nous parler du 8e édition du Champs-Élysées Film Festival, et Océan, qui est membre du jury de ce festival. Alors, il y aura 6 longs-métrages français et 6 longs-métrages américains en compétition. Racontez-nous les masterclass. Alors, c'est des rencontres avec des stars.
Voilà,
il y a Christopher Walken.
Christopher Walken et Kyle MacLachlan. Voilà, pas évident à dire. C'est Twin Peaks, hein, pour ceux qui ne savent pas qui est Kyle MacLachlan.
C'est lui qui fait flipper dans Twin Peaks.
Exactement, c'est l'agent Dale. Christopher Walken, alors, c'est hyper contente parce que c'est un grand, grand monsieur du cinéma quand
c'est
même.
Légende.
Légende, oscarisé. Bon, et puis un
et
personnage.
Le public pourra poser des questions, mais en anglais.
Absolument.
Du coup, en anglais ou en français?
Il y a un traducteur, non, en français. Ouais. Mais il y a toujours des gens qui veulent parler anglais et ça prend 3 heures. C'est toujours compliqué. C'est ils veulent montrer qu'ils parlent super bien anglais. Et en fait, il y a un traducteur qui traduit simultanément, qui est super, qui s'appelle Émile. Et donc, rencontre avec le public, exactement. Et c'est l'idée de ce festival, quoi. C'est pour le public, vraiment, pour qu'il puisse avoir pour 49€ la semaine, ce qui, somme toute, n'est pas une somme énorme, accès à tout. Voilà, y compris aux discussions avec
donc on
des...
peut voir 12 films,
les courts-métrages, les masterclass, les avant-premières, monter sur le rooftop Publicis avec les petits showcases musicaux qu'on a également.
Ça, c'est inclus dans les 49€?
C'est compris dans les 49€.
C'est avantageux.
C'est super. Alors, dans la mesure des places disponibles, évidemment. Hein, parce
on
que
peut faire des rencontres, du coup,
on
sur le
rooftop. On peut faire des rencontres. voilà, venez, vous êtes là. Bienvenue. C'est que cette terrasse sublime qui donne sur les Champs-Élysées, qui est une terrasse privée, donc c'est, on ne peut pas accueillir, malheureusement, plus de 250 personnes, ce qui est déjà pas mal. Et voilà, et une semaine un peu de folie sur les champs. Il va faire chaud, j'espère que ça va aller. Et on court de droite à gauche et on présente tout. Et les équipes de films, et l'ouverture, la clôture, les invités. Enfin, voilà, c'est un vrai festival, quoi.
Mickaël Quiroga a des choses à vous dire.
Ah. Alors bonjour Sophie Dulac, bonjour Océan. Je suis ravi de rencontrer des passionnés de cinéma comme moi. Vous êtes passionné de cinéma indépendant. Alors, cinéma indépendant, c'est pas vraiment la grande vadrouille. Hein. Entre autres, à cause du traitement du pitch. Alors, le pitch, c'est l'histoire en deux mots. Vous voyez, pour bien comprendre la différence, prenons un pitch simple. Un homme et son meilleur ami tombent amoureux de la même femme, s'engagent alors à un ménage à trois. Ça, c'est le pitch du film indépendant. Pour que ce soit un blockbuster, un film dit commercial, il faudrait rajouter des éléments. Il faut que la fille dont ils sont tombés amoureux soit en réalité une extraterrestre tentaculaire envoyée sur Terre pour être fécondée dans le but d'engendrer une race hybride destinée à éliminer l'humanité. Et que l'un des deux gars soit en réalité un super ranger de l'espace envoyé depuis le futur pour empêcher la destruction de la planète et sauver la vie de son ami qui est en réalité son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, le tout en essayant de ne pas causer une catastrophe temporelle. Et l'action se situe bien sûr aux États-Unis, évidemment. Hein. Alors que le film indépendant, ça se passerait plutôt à Créteil. Aux États-Unis, vous le disiez, la frontière entre l'indépendant et le commercial est très floue. Une star peut très bien jouer dans, et même réaliser un film indépendant comme James Franco d'ailleurs, dont le film The Pretender sera projeté en avant-première lors de votre festival, Sophie Dulac. En France, c'est plus simple de différencier le film indépendant du film dit commercial. S'il y a Christian Clavier, Dubosc ou Danny Boone, c'est pas de l'indépendant. Il se peut aussi que des films dits commerciaux se fassent sans Christian Clavier, Dubosc ou Danny Boone. Mais dans ce cas, en général, ils font un score de films indépendants. Le casting sera aussi un peu plus inattendu pour les films que pour les films commerciaux. Dans l'indépendant, on privilégiera le contre-emploi. Ainsi, on pourra très bien retrouver Ben H dans le rôle d'un culturiste. Alors qu'il aurait du mal à soulever sa veste sans échauffement préalable. Léa Londo dans le rôle de la séductrice, alors qu'on sait tous que tout ce qu'elle arrive à emballer, c'est son sandwich. Ou encore Christine Bérou dans le rôle de la maman épanouie, alors que dans la vie, ça fait 2 mois qu'elle a proposé sa fille à l'adoption sur le Bon Coin.
Il est toujours disponible, hein, mon bébé.
Alors que pour le blockbuster, en général, c'est beaucoup plus spectaculaire, avec un casting beaucoup plus international.
Ne manquez pas le trio diabolique. Un thriller spatio-temporel. Avec Bruce Willis, Halle Berry, Will Smith, Brad Pitt, Michael Quiroga.
Alors, c'est vrai que dans les films à gros budget, les sujets sont souvent balourds, mais avouez que le casting a de la gueule quand même. Alors, autre différence marquante, hein, c'est la bande-annonce du film, une bande-annonce de film indépendant. C'est mesuré, c'est intelligent, c'est... Il y a lui qui aime elle. Elle aime lui, mais elle aussi aime l'autre. L'autre l'aime elle, mais ne l'aime pas lui. Lui aimerait bien que l'autre l'aime s'il se laisse aimer d'elle. Il ne tient qu'à lui qu'elle l'aime autant que l'autre et que l'autre l'aime lui autant qu'elle. Ne manquez pas elle, lui et l'autre. Lauréat du Pélican de Prague, de la Plume d'Or de Copenhague et de la Musaraigne de Cracovie. Le dernier film de Pépé. Alors, Pépé, alias Pedro, Asbjørn, Guadalupe, Einstein, Barre, Dupont, Goudak Sherpa, le réalisateur hispano-suédo-panaméo-israélo-germano-franco-tibétain, plus connu sous le nom de Pépé, parce que sinon, on n'a pas assez de place sur la bande-annonce. En tout cas, merci Sophie Dulac de nous proposer cette 8e édition du Champs-Élysées Film Festival, car le cinéma indépendant peut être surprenant, marrant, déroutant, émouvant, parfois même dérangeant ou même provoquant, mais une chose est sûre, il est toujours intéressant.
Enfin. Merci Sophie Dulac et Océan d'être passés nous voir. Sophie Dulac, on rappelle la 8e édition du Champs-Élysées Film Festival, ouvert au grand public. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 juin, sur le cinéma indépendant américain et français, plus de 60 projections. Et on peut faire un forfait de 49€ ou payer à la séance. On
exactement, 7€ la séance.
Mais 49€, on va sur le rooftop et on fait des rencontres.
On a bien reçu cette information.
Et Océan, on rappelle votre documentaire sur votre changement de genre qui est disponible sur Internet sur le site France TV/ et qui sortira dans les salles au mois d'octobre. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. C'est Raphaël Baquet qui sera notre invité pour la biographie qu'elle a consacrée à Karl Lagerfeld. Ne bougez pas.
h 12h30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ce mardi sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Léa Londo, Christine Bérou, Ben H. Et notre invité qui est grand reporter, écrivain. Elle a participé au lancement de l'hebdomadaire Marianne avant de rejoindre Le Monde où elle est grand reporter. Familière des coulisses du pouvoir, elle a mis en lumière les secrets de campagne de Jacques Chirac et Ségolène Royal. C'est aujourd'hui un grand nom de la mode dont elle vient nous parler puisqu'elle vient de signer Kaiser Karl aux éditions Albin Michel. Un portrait haute couture de Karl Lagerfeld. La plume acérée Raphaël Baquet est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Raphaël Baquet.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Alors ce livre, c'est un hommage à Karl Lagerfeld, mais vous n'hésitez pas non plus à les gratigner un petit peu en parlant d'un manipulateur un peu pervers.
Oh, pervers, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, c'est certain que c'est un homme à la fois mondialement connu et qui a entièrement réinventé sa vie. C'est rare d'ailleurs, hein. Des milliers d'interviews, et pourtant, la plupart des choses qu'il raconte sont, sinon mensongères, en tout cas recomposées très largement.
Ça lui fait un point commun avec Balkany.
Ouais.
Mais c'est marrant, Coco Chanel, c'était pareil, elle brouillait tout le temps les pistes, c'était impossible de savoir. Finalement, c'est un peu, ça appartient à cette maison. Un peu.
Oui, peut-être que l'image est tellement importante dans la mode qu'il vaut mieux traverser la réalité, non ? Il n'y a pas de ça ?
Oui, sans doute, il y a une espèce de sens esthétique, très certainement, mais il y a aussi un homme qui a traversé le siècle et qui voulait avoir une vie plus exemplaire, plus extraordinaire, plus attrayante, plus, qu'on l'envie un peu plus.
Alors, il est mort il y a seulement 4 mois, Karl Lagerfeld. Alors, ce livre était déjà en préparation avant ou vous l'avez... Comment ça s'est passé ?
Oui, en fait, j'ai commencé il y a 2 ans, donc il était tout à fait vivant, bon pied, bon oeil, et je l'ai rencontré d'ailleurs à cette occasion. Et puis, finalement, voilà.
Comment il a réagi quand vous lui avez posé des questions très précises ?
Écoutez, il était comme un homme de pouvoir, c'est-à-dire avec un mélange de séduction et d'intimidation. D'abord, j'avais mis assez longtemps avant de réussir à le convaincre de me recevoir et on s'est vu 3 heures durant. Je l'avais suivi avant à Hambourg, sa ville natale, et effectivement, il y avait à la fois cet esprit que vous lui connaissez, hein, il était très drôle, très cultivé, et en même temps, dès que j'approchais sur des terrains dont il ne voulait pas parler, c'est-à-dire essentiellement, en fait, à la fois les deux bouts de la chaîne, son enfance et son éventuelle succession. C'est-à-dire,
Deux choses dont il ne voulait pas parler.
Voilà. Alors là, effectivement, tout d'un coup, il vous coince, il vous pose des cols, il lève les yeux au ciel. Bref, il essaie de vous déstabiliser.
Et comment vous vous êtes passionnée, en fait, pour lui ? À quel moment ?
Si vous voulez, j'ai commencé à m'y intéresser il y a quelques années. J'étais en reportage en Chine et je m'étais perdue au fin fond de la Chine. Et là, on a appelé un paysan qui est venu dans sa vieille guimbarde pour m'indiquer le chemin. Et donc, il était vraiment un vieux paysan buriné chinois. On parlait par gestes. Et il avait un Pins Karl Lagerfeld, vraiment tout à fait étonnant. Et là, je me suis dit, c'est vraiment la mondialisation, si vous voulez. En même temps, cet homme, probablement, ne savait même pas que le Karl Lagerfeld était un couturier. Et j'ai bien vu qu'il était à la fois vraiment mondialement connu, connu partout, et en même temps qu'il restait extrêmement mystérieux.
C'est une légende, en fait, quelque part. Il ne voulait pas non plus qu'on perde ce mystère. Donc...
Oui, c'est à vrai dire, la meilleure façon, effectivement, d'égarer les curieux, c'est d'abondamment se raconter. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a cessé de raconter 1000 anecdotes, sauf qu'elles étaient fausses.
Vous parlez aussi de la rivalité entre Yves Saint-Laurent et Karl Lagerfeld, et notamment avec cet homme qui se sont partagés à un moment.
Oui, c'est incroyable. C'est quand même un cas tout à fait unique où on voit deux personnages qui vont compter et dominer la mode, Saint-Laurent et Lagerfeld, qui gagnent en même temps le même concours de couture, qui vont être amis.
Quel concours de couture ?
Ils gagnent le concours du syndicat de la mode, en fait. Mmh. Hein. Donc, du syndicat de la laine, qui est l'espèce de Goncourt de l'époque, si vous voulez, dans la mode. Ils vont le gagner tous les deux la même année, et puis ils vont être amis pendant assez longtemps, en fait, puis très vite, enfin, puis assez vite être rivaux. Hein. Et c'est vrai qu'entre eux, il y a cet amant, Jacques de Bachère, que Karl Lagerfeld rencontre dans une petite boîte de nuit. Il faut imaginer Jacques de Bachère, hein. C'est un dandy très très beau. Quand il rencontre Lagerfeld, il a une espèce de culotte de peau bavaroise, une chemise blanche et un petit bonnet de marin à pompons rouges. Donc il est vraiment incroyablement sexy. Séduisant et sexy. Et puis, effectivement, il se fait entretenir par Lagerfeld. Il est sa muse et son envoyé spécial, si vous voulez, dans le monde de la nuit. Et il va commettre cette transgression terrible, c'est-à-dire séduire le rival de Lagerfeld, qui est Saint-Laurent. Voilà, l'ennemi. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Jacques de Bachère n'a jamais eu, évidemment, l'intention de rompre avec Lagerfeld pour choisir Saint-Laurent. Saint-Laurent était fou amoureux de Jacques de Bachère. Et peu à peu, si vous voulez, il a raconté à Lagerfeld ce qui se passait avec Saint-Laurent. Cette espèce d'homme un peu désaxé, sombrant dans la drogue, parce que Saint-Laurent s'est mis à prendre énormément de cocaïne. Et longtemps, Pierre Berger, le compagnon de Saint-Laurent, a été convaincu que Lagerfeld avait envoyé Jacques de Bachère à Saint-Laurent pour le séduire et abattre sa maison. Donc c'est vraiment beaucoup plus qu'une simple histoire d'amour, si vous voulez, ou de tromperie.
Et quand ce fameux Jacques de Bachère meurt, on dit que jamais Karl Lagerfeld n'a été aussi triste et qu'il avait beaucoup de mal à se remettre de la mort de son compagnon.
Oui, Karl Lagerfeld détestait la maladie et la mort. Hein. Le moindre rhume chez une collaboratrice lui valait 8 jours d'éviction. Mais quand Jacques de Bachère a été atteint du sida et qu'il est tombé malade, effectivement, c'est la seule exception qu'ait fait Lagerfeld. Il l'a veillé nuit et jour et vraiment jusqu'au bout.
C'est romantique.
Oui, c'est une histoire romantique. C'est l'histoire un peu éblouissante et amoureuse d'un homme qui, pour autant, était extrêmement rigide et beaucoup plus discipliné qu'il ne paraît. Europe.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Raphaël Baquet, venu nous parler de sa biographie Kaiser Karl, consacrée à Karl Lagerfeld, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Quiroga, Léa Landau, Christine Nemo-Benache et notre invité Raphaël Baquet, venu nous parler de son livre Kaiser Karl, une biographie consacrée à Karl Lagerfeld. Alors Raphaël Baquet, en 95, vous publiez le livre Chirac, président, les coulisses d'une victoire. Vous étiez vraiment dans les coulisses de la victoire de Jacques Chirac ?
Ah oui, c'était très amusant. C'était une élection, vous vous souvenez, personne ne pensait que Chirac pouvait réussir. C'était à l'époque Édouard Balladur qui avait le vent en poupe. Et donc, effectivement, l'entourage de Chirac était assez ouvert, au fond, parce qu'ils étaient désespérés, tout simplement. Et donc, je me souviens, j'ai écrit ce livre, d'ailleurs, avec celui qui est devenu mon mari après, et on avait pu pénétrer vraiment pas mal les cercles chiraciens.
Pénétrer.
Donc, chaque mot est à double sens ici.
Faut que vous le sachiez, ici, c'est 8 ans d'âge mental.
Donc, vous devez votre vie amoureuse un peu à Jacques Chirac.
Je lui dois au journalisme, en tout cas, ouais. Oui, c'est vrai.
Et après, vous avez choisi de suivre les coulisses de Ségolène Royal, un peu pour avoir le même résultat. Vous pensez qu'elle avait des chances, vous vous êtes dit, ça va peut-être faire un Chirac 2, non ?
Ah, Ségolène Royal, j'ai commencé à la suivre avant même qu'elle ne soit investie au primaire, mais on voyait qu'elle était tout à fait différente, qu'elle suscitait surtout une animosité incroyable au sein du Parti Socialiste, et donc c'était amusant de suivre une campagne qui a vraiment décoiffé d'une certaine façon quand même la politique et de voir ses propres contradictions à elle, ses engouements, ce qui annonçait d'une certaine façon aussi Emmanuel Macron.
Qu'est-ce que vous pensez du rôle de la presse en ce moment? On a vu qu'il y a eu des journalistes qui ont été interrogés par les services de renseignement avec le secret des sources.
La presse est sans arrêt menacée, hein, même dans une démocratie comme la nôtre. Alors, c'est pas du tout la même chose que dans les dictatures, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à défendre quand même à la fois le secret des sources, la liberté d'enquêter, tout simplement. Et aucun pouvoir ne s'en satisfait tout à fait.
Et quelle est la limite? À quel moment vous dites « Ah ça, je pense qu'il vaut mieux pas que j'en parle ».
Vous êtes au courant de choses que vous ne dites pas non plus.
Bien sûr, mais quand on choisit de ne pas dire quelque chose, c'est quand ça met en jeu la vie de quelqu'un. Par exemple, quand on suit une négociation sur des otages, par exemple, il y a des informations qu'on ne divulgue pas, en tout cas qu'on ne publie pas, parce qu'elles pourraient mettre en danger soit des membres des forces spéciales, soit les otages eux-mêmes.
Et sur la vie privée, où est la frontière?
Je pense qu'il y a une différence entre ce qui concourt à expliquer la vie publique et puis ce qui relève de l'intimité de tout un chacun. Donc ce qui relève de l'intimité doit être tu, et je pense que ce qui relève vraiment de ce qui se passe dans les chambres à coucher ou dans les croyances les plus intimes doit être gardé dans le domaine privé. Et en revanche, ce qui a un rapport avec la vie publique peut être divulgué.
Comment vous choisissez les personnes à qui vous consacrez des livres? Par exemple, Castaner, vous n'avez pas envie d'écrire un livre sur lui? Ça ferait 3 pages.
il faut qu'il y ait de la matière, effectivement.
Oh bah allez boire un coup avec lui, vous allez voir, il y a de la matière. Hein.
Sortez en boîte une fois, vous allez voir.
Peut-être qu'il y a matière à danser, mais je ne sais pas s'il y a matière à écrire.
Et Emmanuel Macron, vous n'avez pas eu envie de lui consacrer un livre, Raphaël Baquet? Ça a déjà été fait ça.
Non, mais Emmanuel Macron est un formidable personnage, justement parce que assez mystérieux, au fond. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il est difficile d'approcher de ce qui est probablement sa vérité. Mais il y aura certainement des livres, et moi-même, j'adorerais enquêter sur lui, je le fais d'ailleurs pour Le Monde, mais c'est vrai que c'est un bon personnage. Alors, c'est compliqué de prendre des personnages plus jeunes, si vous voulez. Il n'a que 40 ans, et donc c'est difficile car... effectivement, il a moins de matière que lorsque vous enquêtez sur quelqu'un comme Karl Lagerfeld, qu'on a 85.
Il faut faire un livre sur Brigitte Macron, alors.
Mais les deux sont très intéressants, évidemment. Ouais, il faut les traiter en couple.
Ouais. Et Patrick Balkany?
Patrick Balkany, c'était un sujet très intéressant il y a encore quelques années. Et là, d'une certaine façon, on voit la fin d'une carrière qui est l'espèce de conclusion et l'espèce de punition, si je puis dire, ça a un côté moral, mais c'est vrai, de tout un parcours très particulier.
Vous dites, Raphaël Baquet, j'ai vu changer la France, la société française est beaucoup plus pessimiste qu'avant.
Ah oui, c'est vrai. Je trouve que... Mais il me semble qu'il y a encore peut-être 20 ans, il y avait une espèce d'optimisme, ou en tout cas de légèreté très typique de l'esprit français, que, hélas, nous avons perdu. Qui est probablement lié à la fois évidemment à la crise économique et puis renforcé par les réseaux sociaux qui alimentent quelque chose de beaucoup plus agressif, qui s'exprime moins lorsque les relations sont directes entre les gens.
Raphaël Baquet, beaucoup de gens ont dit que la presse était morte. Et puis en fait, par exemple, Le Monde, on s'aperçoit qu'il y a 2 millions de personnes qui viennent sur lemonde.fr chaque jour, c'est énorme.
Bien sûr, c'est énorme. La presse n'est pas du tout morte, heureusement. Ce qui est en perte de vitesse, c'est le support papier, si vous voulez. Ça, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de gens qui achètent le journal en kiosque. D'abord, les kiosques disparaissent, et puis les gens le lisent sur leur écran. Mais aujourd'hui, énormément de lecteurs du Monde, effectivement, sont abonnés au Monde, et donc des abonnés payants, et lisent sur leur écran. D'ailleurs, j'avais peur au départ, je me souviens, il y a quelques années, à la naissance du smartphone, si vous voulez, on avait peur, notamment moi qui écris des longs papiers, que les gens ne lisent plus des longs papiers sur leur téléphone, et c'est tout à fait le contraire qui se produit, puisque aujourd'hui, on peut mesurer comment les gens lisent, et les gens lisent d'énormes papiers, parfois de 20 000 signes, sur leur téléphone, dans le métro. Ouais.
Parce qu'il n'y a pas de réseau, on ne peut pas actualiser, donc on reste sur la page.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité, la journaliste et écrivain Raphaël Baquet, venu parler de son livre Kaiser Karl, une biographie consacrée à Karl Lagerfeld qui vient de sortir aux éditions Albin Michel.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Léa Landau, Christine Leroux, Ben H et notre invité Raphaël Baquet veut nous parler du livre Kaiser Karl, la biographie qu'elle a consacrée à Karl Lagerfeld aux éditions Albin Michel. Quand vous enquêtez, Raphaël Baquet, comment vous pouvez être sûr finalement que ce que vous écrivez est vrai? Parce qu'on sait très bien que dans une vie, il y a des zones d'ombre et puis des gens peuvent vous... 5 personnes peuvent vous dire la même chose sur une personne, ça ne veut pas dire que c'est vrai forcément.
Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Bah, on essaie toujours de recouper, d'abord d'avoir des documents, des choses qui peuvent se vérifier de façon très concrète. La multiplication des témoignages quand même vous permet d'approcher une vérité, puis surtout citer aussi les sources qui vous disent telle ou telle chose sur un personnage, ça vous permet quand même d'approcher le plus près possible de la vérité, si tant est qu'on approche vraiment de la vérité d'un homme, si vous voulez, bien
Alors,
sûr.
Alors, Karl Lagerfeld, on sait qu'il a tout légué à sa chatte Choupette.
Et vous pas tout.
Et vous dites que l'héritage n'est pas résolu. C'est comme Hallyday, il y a des problèmes.
Bah, c'est en cours de résolution, si vous voulez. On le saura dans quelques mois, hein, bien sûr. Mais c'est un héritage extrêmement important, car Lagerfeld était riche. Il avait non seulement des biens immobiliers, mais aussi une collection de meubles tout à fait formidable. Il avait aussi une bibliothèque extraordinaire, hein, qui sera probablement léguée à une fondation. Donc, des centaines de milliers de livres. Hein. On ne parle pas de juste une bibliothèque de 2000 livres. Hein. C'est probablement plus de 100 000 livres. Effectivement,
surtout que sa chatte ne sait pas lire. Quoi. Ça n'a aucun...
Non, mais c'est un peu aberrant non, comme héritage quand même, vous ne trouvez pas?
Mais dans la mode, à vrai dire, c'est ça qui m'a frappée. Beaucoup plus dans la politique. Les gens imaginent toujours, les politiques s'en mettent plein les poches. Mais pas du tout. La réalité, c'est qu'en revanche, dans la mode, les gens sont très riches. C'est un milieu où il y a beaucoup d'argent.
Et en plus, ils fabriquent des poches. Donc
je veux dire...
Et quand vous l'avez rencontré, Karl Lagerfeld, Raphaël Baquet, vous a fait des remarques sur votre style?
Non, pas lui, parce que je pense qu'il était plus habile que ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je rentrais dans une des maisons de couture où il travaillait, donc soit Chanel, soit Fendi, et tous ces gens de la mode, c'est vrai que j'avais le sentiment d'être un peu regardée de haut en bas. et je faisais particulièrement attention, oui.
Comment vous habillez
à mes tenues vestimentaires.
Ce jour-là, donc c'était quoi, du noir pour pas être...
Non, mais c'est vrai que quand on, enfin les gens de la mode font attention et c'est bon, c'est leur métier et c'est normal et c'est leur goût aussi, mais il faut attention à des multiples détails qui vous échappent vous complètement et en tout cas à moi c'est certain et il faut chaque détail regarder, une chaussure, un petit bracelet, donc.
Comment a réagi l'entourage de Karl Lagerfeld à ce livre, Raphaël Baquet?
Miaou.
ouais, c'est ce que j'allais dire, quel entourage.
Ce chat vous plaît beaucoup. Hein. à vrai dire, il y a de multiples entourages chez Lagerfeld. Il y avait une cour, il y a ceux qui sont sortis de la cour, il y a ceux qui ont employé Lagerfeld. Donc j'ai reçu énormément de messages. Plutôt d'ailleurs sympathique, disant que bon, sa vie, son parcours, ses défauts aussi étaient bien restitués.
Ah, vous avez plutôt des compliments?
Plutôt des compliments.
Et quand même un peu de critique?
Mais ceux qui vous critiquent ne le disent pas. C'est un milieu où on ne dit pas les choses trop violentes.
Pas en face?
Pas en face, non. Je pense que c'est un milieu où tout est assez policé.
Ils vous le diront sur Twitter?
Je vous présente quelqu'un qui dit les choses en face, c'est Christine Béroux, elle a lu votre livre, Raphaël
Baquet.
Oui,
bonjour Raphaël Baquet, grand reporter au Monde. J'ai peur que vous repartiez avec une idée d'article sur ces adolescents presque quadragénaires, dépendants affectifs et en quête d'identité artistique, autrement appelés les chroniqueurs radio. Mais parlons de Karl Lagerfeld. Alors, je vous avoue que moi au début, je ne le portais pas dans mon cœur parce que je suis contre la fourrure. Et puis j'y réfléchis, et c'est vrai que je suis aussi contre le Nutella, et ça ne nous empêche pas avec Anne Romanoff d'être très copine. Voilà. Mais j'avais peur aussi face à une spécialiste de Lagerfeld d'être complexe, parce que je suis pas vraiment à la mode. Et puis j'ai réalisé que je portais moi-même un accessoire qui vaut 1 200 €.
Ah ouais?
Oui, c'est ma molaire sur pivot, 100% céramique. Voilà. Là, j'y connais rien en mode. Là, je sais même pas si on est dans les collections printemps-été, automne-hiver. Vous savez, vous. J'attends avec impatience le réchauffement climatique pour qu'il n'y ait plus qu'un défilé par an. La collection été-été. Mais dans votre livre, il y a plus que ça. Il y a l'histoire d'un être humain passionné qui avait pour grand rival Yves Saint Laurent. Moi, je comprends. J'ai également une rivale. C'est Nathalie Portman. Mais là,
c'est vrai.
Elle n'est pas au courant.
Non, mais je lui ai laissé une petite longueur d'avance.
Ah ouais.
Vous allez voir. Non, il y a de très beaux extraits, je vous cite. Le sexe n'intéresse pas Karl. Peut-être même lui fait-il peur. Par tempérament, il est d'une nature froide, distante et secrète. Il
peut faire preuve d'attention très délicate, mais jamais il ne se permet une caresse sur le bras ni ne laisse échapper le moindre sentiment. Du coup, Léa, ne lis pas le livre. Ça va te rappeler ta vie sentimentale. Karl Lagerfeld était aussi un grand philosophe. Alors, ma citation préférée, « Les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie, donc vous sortez en jogging. » Voilà, je suis bien désolée pour certaines personnes du public qui viennent pour rigoler et qui apprennent qu'elles ont perdu le contrôle de leur vie. Bien sûr, Raphaël Baquet, vous faites votre boulot. Hein. Vous évoquez aussi les mauvais côtés de Karl Lagerfeld. Ce n'était pas toujours un ange. J'espère qu'il est quand même allé au paradis parce que s'il est en enfer, il est au chômage vu que le diable s'habille en Prada. Non, ce livre est vraiment très complet. Bravo, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Il y a tout. Par contre, vous avez oublié de mettre le numéro de portable de Baptiste Giabiconi. Donc, c'est exprès ou pas? Vous me le donnerez après? Vous l'avez?
Bah, je l'ai gardé pour moi.
Vous l'avez? Bon, bah, j'attends. Alors, merci. Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Raphaël Baquet. Je vais vous parler de son livre Kaiser K, une biographie consacrée à Karl Lagerfeld qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Michael Courgat, Léa Lando, Christine Meroux, Ben H. Et notre invité Raphaël Baquet, venu parler du livre qu'elle vient de consacrer à Karl Lagerfeld, Kaiser Karl, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Alors, Raphaël Baquet, vous dites que les couturières de Chanel, ce sont elles qui vous ont parlé de Karl Lagerfeld le plus chaleureusement.
Oui, c'est vrai. Les ouvrières des ateliers, vous savez, c'est formidable ces ateliers.
Ces petites mains.
Voilà, moi, on dit petites mains, elles sont vraiment un artisanat extrêmement poussé. Hein,
oui,
c'est,
oui. Non, mais petites vraiment, mains parce qu'elles font un travail minutieux.
Ce sont des mains, ce sont des ouvrières extrêmement qualifiées, de haut niveau. Et c'est vrai que, alors que j'ai souvent entendu des avis assez partagés, assez tranchés, assez controversés sur Karl Lagerfeld, elles, au contraire, elles étaient extrêmement chaleureuses, parce que c'est probablement avec elles qu'il établissait le moins de distance et cette espèce de hiérarchie.
Il était surtout très travailleur, il faut quand même le dire, ça.
Oui, très travailleur, c'est un grand dessinateur.
Un beau travail.
Non, mais c'est surtout un immense dessinateur, pas seulement d'illustration, si vous voulez. Il était capable, effectivement, de dessiner avec toutes les additions techniques, si vous voulez, pour que les couturières s'y retrouvent. Et effectivement, il discutait d'égal à égal avec ces femmes qui pourtant sont toujours un genou à terre, à fixer des épingles, si vous voulez, devant lui. Et vraiment, alors que beaucoup de couturiers sont parfois très distants et se contentent de dessiner, puis les ordinateurs précisent les détails techniques, lui le faisait vraiment lui-même.
Et alors, vous dites aussi qu'il était très malin, qu'il invitait des journalistes de mode aux accessoirisations des défilés, en leur demandant leur avis.
Ça m'a beaucoup amusée. Ouais. Effectivement, avant chaque défilé, Lagerfeld faisait une espèce de plusieurs, d'ailleurs, petits groupes qui défilaient toute la journée pour regarder les mannequins venir. Et on cherche les accessoires, le sac, les colliers, le foulard qui iront avec telle ou telle tenue. Et effectivement, il donnait l'illusion aux rédactrices de mode de pouvoir choisir. Alors quand l'une lui dit « Ah non, franchement, Karl, je crois que ce foulard rose, on devrait mettre un bleu. » Donc il dit « Ah mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, on va mettre un bleu. » Et puis le lendemain, c'était le foulard rose qu'il avait décidé de choisir.
Comme ça, il se faisait bien voir des rédactrices
Exactement.
De mode. Exactement. Il avait tout de suite eu le sens de la communication, vous dites.
Oui, d'ailleurs, dès qu'il est arrivé chez Chanel, il a négocié dans son contrat d'avoir aussi un budget spécial en cadeau, en sac, en tailleur.
100 000
À distribuer. Ah oui, plus 500 000. À l'époque, c'était des francs, mais ensuite, ça, chaque année, il l'a renégocié. À distribuer, si vous voulez, à la fois aux jeunes femmes qui pouvaient porter ces tenues à l'extérieur,
des
donc des femmes connues, des influenceuses.
On n'appelait pas influenceuses comme ça à l'époque.
Et puis des journalistes aussi. Mais donc il a arrosé de cadeaux énormément de gens.
Dans le livre Le diable s'habille en Prada, c'est raconté, ça d'ailleurs.
Exactement.
Les journalistes, elles se battent pour ça.
Et... Exactement. C'est tout à fait des mœurs de la mode, mais c'est lui qui les a vraiment introduites.
Vous avez reçu un cadeau, vous ?
Non, aucun cadeau.
Alors,
et j'aurais été bien, bien embêtée. Et d'ailleurs, je n'ai pas les mensurations Chanel.
Comment ça, vous n'avez pas les mensurations
c'est
Chanel?
C'est quoi les mensurations Chanel?
C'est très, trop mince.
Ne dites rien, vous allez vexer.
C'est-à-dire, aucune de nous peut le mettre.
On peut mettre un sac, il n'y a pas besoin de mensuration.
Oui, c'est vrai.
En fait, c'est intéressant parce qu'au début de sa collaboration avec Chanel, il fait venir Inès de la Fressange et elle, d'abord, elle est très ravissante, évidemment, vous le savez, mais elle a les mensurations Chanel. Mmh. C'est-à-dire, pour porter ce tailleur, pas de sein, pas de hanche, et vraiment cette façon de porter le tailleur. Et lorsqu'il va se fâcher très violemment avec elle, il va choisir son contraire, qui est Claudia Schiffer, qui est tout en courbe et en délié, ravissante. Et elle, évidemment, ce n'est pas tellement le tailleur Chanel qui lui va, donc il
la fera défiler en bikini avec une veste Chanel ouverte.
Mais d'ailleurs, il y a une vidéo sur le site de Lina où on peut voir Coco Chanel dire que les femmes qui ont des formes ne sont pas faites pour porter du Chanel, mais pour porter des enfants. C'est quand même extrêmement misogyne quand même.
Ah non, mais elle était extrêmement dure. Extrêmement
Coco Chanel disait aussi qu'une femme sans parfum n'a pas d'avenir.
Oui, c'est vrai. Non, mais il a à la fois...
Ça, c'était Coco Chanel qui
disait
ça.
Oui, Coco Chanel. Et Karl Lagerfeld a à la fois gardé ce qu'avait impulsé Chanel, évidemment, qui est la vraie grande créatrice de la maison qui porte son nom, mais il l'a en même temps modernisé. Elle, à la fin de sa vie, elle ne supportait pas les mini-jupes. Elle n'a pas rattrapé, si vous voulez, son époque. Elle s'est laissée vieillir, ce qui a toujours été l'immense angoisse de Lagerfeld. Il ne voulait surtout pas terminer comme elle, en côté radoteuse et un peu réac qui a été son cas.
Pour raconter que quand Karl Lagerfeld a été nommé à la tête de Chanel, Saint Laurent est limite rentré en dépression.
Ah oui, parce que justement, Saint Laurent avait toujours dit que Chanel était son modèle. Et d'ailleurs, Chanel elle-même parlait de Saint Laurent comme d'un dauphin potentiel, si vous voulez. Et donc, le fait que ce soit Lagerfeld qui reprenne le nom de Chanel, la maison et la puissance de Chanel, évidemment, a abattu Saint Laurent pendant un ou deux ans.
Mais Saint Laurent devait vraiment le détester. Parce que ce soit professionnel ou sur le point sentimental, il lui a tout pris, en fait.
C'était vraiment une relation particulière car évidemment ils connaissaient l'un et l'autre parfaitement ce qu'était la couture, ils étaient capables de mesurer l'un et l'autre le génie qu'il faut pour être un grand couturier et effectivement ils n'ont cessé de se battre d'une certaine façon. Donc Saint Laurent a gagné parce qu'il est rentré dans le panthéon de la couture, c'est lui qui laissera le smoking pour femmes, les sahariennes, etc. Et un nom bien sûr. Et Lagerfeld a gagné sur la distance, car il lui a survécu, car il a travaillé pour tout le monde, parce qu'il a été mondialement connu, et peut-être, comme il le disait, parce qu'il a eu une plus belle vie.
L'histoire de la semaine. Raphaël Baquet, on a une tradition dans cette émission. Chaque lundi, on démarre une histoire. L'histoire a donc été démarrée hier par notre invité d'hier, qui était...
Alexandre Jardin.
Alexandre Jardin. À vous de la poursuivre aujourd'hui avec un mot pioché dans ce chapeau.
Ah bah, je pioche un bon mot, reportage.
Reportage. Ah. Et donc, faut continuer l'histoire en une ou deux phrases. On écoute ce qu'a raconté Alexandre Jardin.
Un roman extraordinaire commença lorsqu'il vit une femme sans beauté qui le bouleversa.
Il aurait voulu partir avec elle pour une grande histoire d'amour, mais il avait un reportage sur le feu et il l'abandonna.
Merci Raphaël Baquet d'être resté nous voir. On rappelle votre livre Kaiser Karl qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Une biographie très documentée consacrée à Karl Lagerfeld. Nous on se retrouve demain à 11h. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin.